Je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans le prophète Michée. Et si vous ne trouvez pas ce petit prophète, simplement écoutez ce verset. Nous l'avons lu déjà la semaine dernière, c'est une prophétie. Michée 5, verset 1. À propos du Messie et du lieu où il doit naître et de sa nature divine. Nous lisons cette prophétie. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Tout à l'heure, nous avons lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, une réponse surprenante de Jésus qu'il a faite à propos d'Abraham. Parce que les Juifs lui disent « Ouais, tu dis que Abraham a tressailli de ce qu'il verrait ton jour, et puis il l'a vu, et t'as pas encore 50 ans, et toi t'as déjà vu Abraham, toi ? Hein ? C'était quand même il y a quelques siècles. » Et Jésus leur dit, verset 58, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Je suis. Et Michée 5 nous dit « De toi sortira celui qui dominera sur Israël, dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà la prophétie qui a été faite. On l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alors, ce matin, j'aimerais, pour parler de Noël, parler du plan de Dieu pour nous. Noël, le plan de Dieu pour nous, et nous, dans le plan de Dieu. Dieu n'agit pas sans plan et sans dessein. Noël n'est pas survenu dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du ciel, comme ça, sur un coup de tête, de façon inattendue. Dieu avait un plan. Et nous lisons en Galates 4 que le plan de Dieu passe par le temps de Dieu. Dieu a son temps. Et c'est pareil lorsque nous faisons des projets, lorsque nous faisons des plans, nous réfléchissons au bon moment. On n'est pas là en train de se précipiter, mais on veut le faire dans le bon temps. Et Dieu, dans le plan qu'il avait pour Noël, avait un temps opportun, un temps qui avait sa place. Et nous le voyons en Galates 4. Galates 4, versets 4 à 6. Il dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Oui, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Dieu englobe le temps de l'histoire et n'agit pas à l'aveuglette et au hasard. Et Noël, quand Jésus est né, c'était parce que les temps étaient accomplis. Et ça, c'est un premier message pour nous dans nos vies, nous dans le plan de Dieu, pour que nous sachions bien que Dieu a un plan pour notre vie, mais chaque chose en son temps. Et Dieu a un temps pour notre vie, pour tel virage à entreprendre, pour telle rencontre, pour tel projet. Il a même un temps pour que nous puissions le rencontrer. Nous le voyons quelques versets avant, en Galates 1, concernant la conversion de l'apôtre Paul. Regardez le temps de Dieu dans la vie de cet homme. En Galates, au chapitre 1, l'apôtre Paul donne son témoignage en ces mots. Galates, chapitre 1, il dit: vous avez su quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voilà la vie de l'apôtre Paul. Il a un parcours de vie, un chemin de vie. Il est né dans une famille juive très stricte, très traditionnaliste. Et puis il s'est lancé dans le judaïsme et dans ses traditions rabbiniques. Et puis il y a mis tout son zèle, toute son intelligence, et puis tout son engagement. Et un engagement radical qui a fait de lui quelqu'un qui a combattu les hérétiques. Et lorsque la foi en Jésus-Christ est apparue en Israël, eh bien Paul a combattu ces premiers chrétiens. Il en a fait jeter en prison, il en a fait fouetter. Peut-être certains sont morts. Mais Dieu avait une rencontre. Il avait un temps pour l'apôtre Paul, et c'est le verset suivant qui le dit. Verset 15: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il plut de révéler en moi son fils afin que j'annonce parmi les païens aussitôt. Et puis il continue: aussitôt un changement. Il y a un temps où c'est le temps de Dieu pour que l'apôtre Paul découvre Jésus-Christ et que Jésus soit révélé à ses yeux et à son cœur. Il y avait un avant et il y a un après, parce que le temps est venu. Et peut-être nous regardons notre vie et nous disons: je pense que Dieu a un plan pour moi. Et puis il y a telle chose et telle chose, mais quand est-ce que ça sera le moment? Est-ce que ça sera le moment? Oui, Dieu a un temps parfait, un temps qui convient. Et nous pouvons faire confiance pour que lorsque le temps sera venu, le temps sera accompli, Dieu manifestera les choses. Dieu fera, Dieu orientera, Dieu permettra, Dieu impulsera. Et nous avons, pour beaucoup d'entre nous, comme l'apôtre Paul, eu cette histoire, bien sûr, d'hommes et de femmes qui n'avaient pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur dans leur cœur. Et avec un arrière-plan, peut-être religieux, peut-être pas, peut-être un arrière-plan religieux dans le christianisme, ou peut-être pas du tout. Mais Dieu, pour chacun, a un temps où il va, où il veut, et où il donne les moyens de révéler Jésus-Christ en nous. Est-ce que nous allons rentrer dans le temps de Dieu en acceptant Jésus-Christ pour vivre comme l'apôtre Paul cet après? C'est ce que Dieu nous invite à faire. Noël, c'est donc le temps de Dieu. Mais c'est aussi Dieu qui prévoit, qui programme un plan. Ça se prévoit. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on a un plan, ben on programme les choses. Et Noël, eh bien Dieu l'avait prévu, Dieu l'avait programmé. Et nous avons toutes les prophéties concernant la venue du Messie qui prépare des siècles avant, qui prépare Noël. Nous venons de lire tout à l'heure dans Michée. Toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira celui qui conduira Israël. Oui, Dieu avait préparé la venue du Messie en désignant le village dans lequel il allait naître. Il avait programmé, prévu et prophétisé qu'il naîtrait d'une jeune femme vierge. Bien des siècles avant, Dieu l'avait dit, l'avait prophétisé. Il avait prévu, programmé qu'il viendrait de la lignée royale descendant de David, le roi David et tous les rois de Juda, l'héritier légitime au trône de cette lignée familiale. Et c'était le cas. Il avait prévu et programmé le phénomène de l'étoile, annonçant cet événement de la naissance du Sauveur. Voyons cette prophétie dans le passage qui concerne Balaam. Il avait prophétisé et programmé la fuite en Égypte et le séjour de Jésus en Égypte pour échapper à Hérode. Et même, Dieu avait révélé l'époque de la naissance de Jésus dans la fameuse prophétie des 70 semaines de Daniel. On le trouve dans Daniel chapitre 9 et l'on peut calculer à partir de la reconstruction de Jérusalem le temps qui va se passer jusqu'au Messie. Et fait curieux, savez-vous qui est le messager qui annonce cela à Daniel? Eh bien, c'est l'ange Gabriel. Comme c'est intéressant de constater que c'est l'ange Gabriel qui annonce plusieurs siècles avant à Daniel le temps où viendra le Messie, l'époque. Et c'est ce même ange Gabriel qui va venir voir Zacharie, qui va venir voir Marie, Joseph, et qui est tant présent dans le récit de Noël. Alors, c'est important pour nous de savoir que Dieu programme, il prévoit. Et regardez, puisque Noël c'est le plan de Dieu pour nous, mais c'est nous aussi dans le plan de Dieu, regardez ce beau verset, psaume 139, verset 16, qui parle de notre vie. Le fait que Dieu nous voit, qu'il a un plan pour nous, qu'il... nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu nous a vus, nous a voulu, nous a aimés, et si nous existons, chacun d'entre nous, c'est parce que Dieu a voulu que nous existions. Regardez ce verset, psaume 139, verset 16. Il parle quand il était encore dans le ventre de sa maman. Même pas encore formé, encore un tout petit fœtus en construction. Et il dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Formidable. Comment un être humain peut dire à Dieu, eh bien j'étais encore dans le ventre de ma maman, une masse informe encore, hein. Mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât, mais ils étaient là. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il a un plan pour notre vie, un plan pour chacun d'entre nous. Troisième chose que nous voyons avec Noël, dans le fait que Dieu ne fait pas les choses au hasard, mais qu'il a un plan, c'est que Dieu communique. Dieu communique. On le voit dans les prophéties déjà. Dieu a communiqué son plan. Voilà, le Messie naîtra à Bethléem, d'une vierge, à telle époque. Mais on voit aussi dans l'histoire de Noël, Dieu qui communique par différents moyens. Il s'adresse à Zacharie, il s'adresse à Marie, il s'adresse à Élisabeth, il s'adresse à Joseph, hommage, à Siméon. Nous voyons Dieu parler à tous ces différents personnages de l'histoire de Noël et de différentes manières. Dieu n'est pas silencieux. Amen. Dieu parle, Dieu communique. Et tout au long du Nouveau Testament, nous voyons l'expérience d'hommes et de femmes que Dieu oriente, à qui Dieu parle. Dieu a un plan pour notre vie et Dieu nous montre son plan. Il nous parle de différentes manières, il nous oriente. Dieu ne reste pas silencieux dans notre vie. Et ça, c'est une chose extraordinaire, mais une chose importante dont nous devons être convaincus. Dieu a un plan pour notre vie et il nous parle, il nous communique, il nous oriente, il ne reste pas silencieux. Et de la même manière que dans l'histoire de Noël, nous voyons que ce qu'il communique s'appuie et s'accorde toujours avec la parole écrite, la Bible. Chaque fois que Dieu communique, il dit, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, ainsi qu'il est écrit dans les prophètes. Ainsi qu'il est écrit. Plusieurs fois, nous voyons dans ce récit de Noël ce lien avec la Bible, la parole écrite, les prophéties qui sont faites. Et de la même façon, lorsque Dieu nous parle, nous oriente, communique, il le fait toujours en s'appuyant et en plein accord avec sa parole. Dieu n'est pas silencieux. Nous voyons une autre chose à Noël. C'est que Dieu intègre et utilise les événements humains dans son plan. De quoi je veux parler ? Je veux parler du fait que Dieu avait dit que le Messie naîtrait à Bethléem. Or voilà que Joseph et Marie habitent à 110 km de là, dans une bourgade qui s'appelle Nazareth. Et Marie est enceinte, elle est même bien enceinte, elle doit être à ses 9 mois ou à ses 8 mois, allez. Et ils sont à 110 km du bon endroit où le Messie doit naître. Et puis à l'époque, on n'a pas la voiture, on n'a pas les autoroutes. Peut-être une carriole. Mais vous croyez que Joseph et Marie se préoccupent du fait qu'il faille aller à Bethléem ? Ça ne leur effleure même pas l'esprit. Alors comment Dieu va-t-il s'y prendre pour que Marie aille accoucher à Bethléem ? Oh, bof. On va faire pondre à César Auguste un édit. Tiens, allez, César qui gouverne tout l'Empire romain, à cette époque, un édit de César Auguste, donc c'est Octave, hein, ordonna le recensement de toute la terre habitée, donc c'est-à-dire l'Empire romain. Et voilà que la pression se fait. Joseph n'est toujours pas allé se faire recenser et je pense qu'il doit arriver à la date butoir. Hein. Il devait penser pouvoir décaler après la naissance, vous voyez ? Mais il y a quelques officiers romains qui ont dû aller le trouver à Nazareth en lui disant, bon écoute, oui mais ma femme elle est enceinte, écoute maintenant tu fais tes bagages, tu vas, parce que si t'es pas arrivé là, ça va chauffer. Hein. Donc, et Joseph est obligé de prendre Marie, enceinte jusqu'aux dents, et de faire un voyage de 110 km parce qu'un édit de César Auguste a ordonné d'aller se faire recenser et qu'il a sans doute tardé et que maintenant il n'y a plus de délai. Et voilà comment il va arriver à Bethléem. Oui, Dieu intègre et il utilise les événements humains. Quel événement ? Le fait qu'un empereur décide d'un recensement et que ce recensement, à un moment qui n'était pas opportun, mais oblige une femme sur le point d'accoucher à entreprendre un voyage de 110 km parce que la loi est là, les échéances sont là, la pression est là et on n'a pas le choix. Et Jésus naît à Bethléem, contre toute attente. C'était pas prévu, sauf par Dieu, qui avait dit, et toi Bethléem Ephrata, de toi sortira celui qui doit diriger Israël, mon peuple. Ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire que pour nous aussi, nous devons savoir que Dieu a un plan dans notre vie et qu'il utilisera les événements autour de nous, des événements politiques, peut-être des décisions, des lois qui sont votées, des événements de l'histoire humaine. Il se passe ceci et ça engendre cela. Eh bien oui, Dieu a un plan pour notre vie. Et ce qui se passe autour de nous, dans notre pays, dans notre ville, différents événements qui surviennent, eh bien Dieu peut les utiliser et les intégrer opportunément au plan qu'il a prévu pour notre vie. C'est formidable d'avoir un Dieu qui a un plan pour notre vie et qui va utiliser des choses inattendues pour nous afin d'accomplir ce qu'il veut accomplir pour nous. Dieu prépare des rencontres aussi pour mener son plan. Le récit de Noël présente 4 rencontres que Dieu prépare. La rencontre de Marie et Élisabeth. Voilà une rencontre qui était importante pour réconforter Marie. Marie qui était... C'était un temps difficile pour elle. Elle accepte de devenir enceinte par le Saint-Esprit, mais elle sait que son fiancé Joseph va l'accuser d'adultère. Que le regard des gens autour d'elle va être un regard de condamnation pour quelqu'un qui est tombé enceinte alors qu'elle n'est pas encore mariée. Et elle part justement dans cette période chez une parente, Élisabeth. Et Dieu prépare cette rencontre entre Marie et Élisabeth pour que Marie puisse trouver un refuge d'une part et trouver une amie d'autre part. Parce qu'aussitôt franchit-elle le pas de la porte qu'Élisabeth, qui elle-même est enceinte dans sa vieillesse, est une femme qui était stérile et qui avait dépassé l'âge, elle avait peut-être 60 ans passés en tout cas. Donc c'est la femme de Zacharie, l'ange Gabriel est venu, il dit ça sera un signe, ta femme deviendra enceinte, et bien sûr l'enfant qui naîtra, c'est Jean-Baptiste. Je vous raccourcis l'histoire, mais voilà. Et aussitôt qu'elle entre, elle sait que Marie est la mère du Messie. Elle dit, je le sais parce que quand tu es entré, mon enfant dans mon ventre, il a tressailli d'allégresse. Dieu prépare des rencontres. Une autre rencontre, c'est la rencontre des bergers. Les bergers qui vont rencontrer Jésus, Marie et Joseph. Une autre rencontre, c'est la rencontre des mages. Imaginez cette rencontre que Dieu a préparée, des mages qui viennent de Perse et qui sont venus après avoir discerné l'étoile du roi des Juifs. Et qui sont venus rencontrer Jésus. Dieu prépare des rencontres. Ainsi que la rencontre avec Siméon et Anne. Lorsque Jésus a 8 jours, ainsi que le voulait la loi, Marie et Joseph l'amènent au temple à Jérusalem pour le faire circoncire. Et dans le temple, nous pouvons le lire, il y avait 2 personnes âgées. Qui attendait le Messie. Nous le trouvons, alors le premier qui le trouve nous le dit, dans l'évangile, je pense, de Matthieu, alors c'est dans Luc, on avait une chance sur deux. C'est dans Luc. Merci Jean-Denis. Luc, chapitre 2. Regardez les rencontres que Dieu prépare, et c'est des choses formidables, et nous devons savoir que Dieu a un plan pour nos vies et qu'il prépare des rencontres. Il y a des gens que Dieu veut que nous rencontrions et il permet que nous les rencontrions. Il y a des rencontres nécessaires que Dieu programme et prépare. Le huitième jour, verset 21, Luc 2, 21, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, Dieu lui avait dit, bien que tu sois âgé, avant que tu meures, tu verras de tes yeux le Messie. Il vint au temple. Donc ce jour-là, il vint au temple poussé par l'Esprit. Vous voyez le gars, ce jour-là, poussé par l'Esprit, il vient au temple. Le bonjour à la bonne heure. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère, donc Joseph et Marie, étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme. » Voyez comment Dieu prépare des rencontres et même à Marie, Dieu, par l'intermédiaire de Siméon, la prépare à ce que une épée lui transperce l'âme, c'est-à-dire la prépare au temps où Jésus sera crucifié. Et à cette douleur d'une mère dont le fils va être mis à mort. Et puis il y a Anne. Verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Nous voyons, nous n'allons pas tout lire les textes, mais nous voyons comment Dieu prépare des rencontres. Alors nous pouvons marcher dans le plan de Dieu en disant, Seigneur, je sais que tu me feras rencontrer les personnes qui sont nécessaires dans mon parcours, dans ma vie, et tu connais les raisons pourquoi c'est nécessaire, tu connais ce que ça va m'apprendre, ce que ça va faire pour Marie. Vous voyez, cette rencontre avec Élisabeth, c'était pour la consoler. La rencontre avec Siméon, c'était pour la préparer à du chagrin. Mais Dieu prépare avec des rencontres. Dieu a préparé des rencontres selon le plan qu'il a pour notre vie. Et Dieu ne manque pas de nous faire rencontrer les personnes nécessaires. Amen. Au travers de Noël, nous voyons encore bien d'autres choses. Par exemple, que Dieu fait intervenir les anges dans son plan. Nous voyons les anges très présents. Le même Gabriel qui avait annoncé à Daniel l'époque du Messie,
Eh bien, ce même Gabriel vient maintenant auprès de Zacharie, de Marie, de Joseph. Les bergers aussi auront le privilège de voir les anges qui annoncent la naissance du Messie. Et puis, cette activité angélique peut se dire, c'est parce que c'est Noël, c'est parce que c'est Jésus. Eh bien, elle est pour nous aussi. Dieu a un plan pour notre vie, et dans ce plan, Dieu fait intervenir des anges. Ils agissent encore aujourd'hui dans le déroulement de notre vie. Ils interviennent dans l'accomplissement effectif du plan que Dieu a pour notre vie. Oui, il y a des anges à l'œuvre, en antichambre. Et Dieu les utilise dans le plan qu'il a pour notre vie. Nous trouvons cela dans le Nouveau Testament, c'est en Hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 14. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des anges et il pose cette question qui est une question, une pseudo-question qui appelle une réponse affirmative. Et il dit à propos des anges, ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ? Oui. Ce sont des esprits au service de Dieu que Dieu envoie pour avoir un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Dieu a un plan pour notre vie et il y a une activité de la part de ces esprits que Dieu a créés à notre bénéfice. C'est formidable. On peut remercier le Seigneur pour cela. Dieu dirige les éléments de la nature pour son plan. Voilà un autre aspect. Les éléments de la nature. Alors il l'a fait pour Jonas avec une tempête. On connaît l'histoire de Jonas qui partait dans la mauvaise direction. Eh bien Dieu fait lever une tempête pour faire sombrer ou menacer de sombrer le navire. On voit comment Dieu utilise les éléments de la nature dans l'histoire de Élie. Il y a cette sécheresse, Élie n'a rien à manger et Dieu va utiliser des corbeaux qui vont amener des bouts de viande à Élie pour le nourrir. Et dans le récit de Noël, eh bien, Dieu dirige les éléments de la nature avec l'étoile. Cette fameuse étoile. Et il le fait pour les mages d'Orient. Alors, il s'agit pour ces mages en Orient, qui étaient des astronomes, astrologues, religieux, du calcul des mouvements des planètes, sans doute de leur conjonction. Il semblerait qu'il y ait une conjonction de Jupiter, Saturne et Vénus qui fait que ces étoiles s'interposant, la luminosité des trois s'ajoute l'une à l'autre et fait une étoile très lumineuse qui apparaît puis qui disparaît. Une conjonction. Alors, vous savez, le système des planètes, le système solaire, le système des étoiles, c'est une grande horloge, c'est une grande mécanique qui a une régularité parfaite. Eh bien, Dieu avait prévu et programmé le mouvement de tous ces éléments, de tous ces astres, pour qu'à un moment, le ciel soit un signe pour annoncer la naissance d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Pour nous aussi, dans le plan que Dieu a pour nous, Dieu dirige les éléments de la nature quand il le faut. C'est formidable. Il l'a fait à Noël, il le fait pour notre vie. Des fois, vous dites, pourquoi cette tempête de neige ? J'ai pas compris. Mais Dieu, il comprend, lui. Puis parfois, nous comprenons par la suite.
Ah mince, j'avais prévu ça, puis il pleut aujourd'hui et je fais plus ce que j'avais prévu. Mais il se trouve que par contre, comme vous n'avez pas fait ce qui était prévu, et ça s'enchaîne. Et vous dites, waouh, ah oui, là j'aurais loupé un rendez-vous de Dieu s'il n'avait pas plu. Dieu peut prévoir la pluie rien qu'à cause de vous, parce qu'il a un plan, un moment, et ça doit passer par là. Les éléments de la nature, Dieu s'en charge. Amen. Alors, je souligne que Dieu avait aussi un plan pour les mages, qui manifestement étaient des astrologues, astronomes, religieux persans, je l'ai dit tout à l'heure, et qui étaient, je le crois, les représentants de ces innombrables personnes qui tâchent de trouver des messages et le sens de leur existence au travers de l'astrologie. À eux, comme à tous ceux qui leur ressemblent, avec cette étoile, Dieu leur dit en quelque sorte, cessez maintenant de chercher par les astres la direction de votre existence. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Et c'est pour cela, je pense, que Dieu a permis aux astres d'annoncer, quelque part dans le langage de ces mages, ils étaient dans ces pratiques astronomiques, astrologiques et religieuses, où on cherche dans l'horoscope et dans la planification, dans la prévision de comment les astres se lèvent, se conjuguent, etc., dans quelle constellation, et je cherche le sens de mon existence. Eh bien, Dieu va parler leur langage pour leur dire, vous cherchez le sens de votre existence? Eh bien, venez voir l'Emmanuel, je vous l'annonce, et je parle votre langage. Et vous ne pouvez pas le contester. C'est pour ça qu'ils sont venus. Venez voir l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et les mages qui ont trouvé Emmanuel, Dieu parmi nous, n'avaient plus besoin de chercher une direction trompeuse à leur existence par les astres et par toute autre pratique occulte, parce qu'ils avaient rencontré Jésus. Et quand on rencontre Jésus, il donne définitivement le sens de la vie. Amen. Oui, Dieu a prévu pour Noël ce message céleste. Il a parlé le langage de ces mages pour les amener à Emmanuel et pour qu'ils puissent abandonner l'occultisme et l'astrologie par lequel ils cherchaient à donner, chercher un sens à leur existence. Quand on vient à Jésus, on laisse tomber l'astrologie, l'horoscope, les gris-gris, les guérisseurs, les magiciens. Jésus-Christ donne le vrai sens à notre existence. Vous allez dire, mais oui, mais si je suis malade, moi, et que j'ai besoin d'un petit guérisseur et d'un petit magicien, tant pis si ça passe par... C'est une des dernières choses que j'aimerais parler ce matin, dont j'aimerais parler, c'est que Dieu intègre à son plan, nous avons parlé du plan de Dieu, Dieu intègre à son plan l'épreuve et les larmes, mais prépare les moyens de traverser. Noël, ce n'est pas juste une histoire paisible. Nous pensons aux émotions de Marie qui, au tout départ, craint d'être accusée d'adultère par son fiancé. On ne peut pas dire qu'elle ne devait pas être tranquille. Inquiète. Pensons aux troubles de Joseph quand il apprend que sa fiancée est enceinte. Fou, désillusion, bam. Avant que l'ange le rassure, il prend un coup sur la tête, là. Noël commence pas très très bien pour lui, hein. Pensons à l'épreuve du recensement. Hein ? En pleine grossesse, entreprendre ce voyage de 110 km, c'est loin d'être un parcours de santé, et avec une arrivée angoissante, parce que le couple, quand il arrive, ne trouve même pas d'hébergement, alors que sans doute les contractions commencent à être là. Hein ? Et bien, pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous parlez d'un voyage tranquille. Hein ?
Non. Noël, c'est pas du tout tranquille, hein, pour ceux qui le vivent. Hein. C'est tranquille pour nous, parce que c'est un beau message, tout ça. Ouais. Mais pour eux qui sont dedans, ils rigolent pas. Hein. C'est une épreuve. Mais Dieu pourvoit. Nous avons dit tout à l'heure, quand Marie était inquiète que son fiancé l'accuse, est-ce que Dieu a pourvu ? Oui. Il a pourvu pour elle déjà Élisabeth, qu'il a accueillie, qui a été pour elle un refuge et une amie. Et puis, Dieu a parlé à Joseph. Est-ce qu'il a pourvu au manque de place dans l'hôtellerie ? Oui. Il y a eu cette étable et cette mangeoire. Alors oui, Dieu pourvoit, pas toujours avec les moyens grandioses que nous, on aimerait. Moi, j'ai envie que Dieu y pourvoie, mais qu'il pourvoie grand. Hein. Il y a des moments où Dieu pourvoit grand. Il y a d'autres moments où il pourvoit quand même. Même si c'est de façon plus minime. Mais il pourvoit dans l'épreuve. Et il a pourvu à un lieu pour que Jésus puisse naître. Vous allez dire, pourquoi ? Parce que dans la main de Dieu, l'épreuve a toujours du sens et de la valeur. Et Dieu n'a pas pourvu un hôtel particulier pour Marie et Joseph lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem. Et il a simplement prévu cette étable et cette mangeoire parce que c'était dans son plan. Parce que, à travers de cela, nous voyons que Jésus fait partie des petites gens. C'est toute cette humilité. Ah, s'il était né dans un palais, on pourrait dire, ouais, bah, il est né dans un palais, on n'est pas tous nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Hein. Eh bien non, il est né dans une mangeoire. Jésus, Dieu fait homme, et puis il s'est fait semblable aux petites gens, avec un papa charpentier qui avait des moyens suffisants, des petits moyens. Bon, si Joseph n'avait pas été charpentier, je suis sûr qu'on lui aurait trouvé une place dans l'hôtellerie. Il aurait eu un poste un peu plus prééminent. C'est rigolo, mais je pense qu'on lui aurait trouvé une chambre. Hein? Ça dépend la grosseur du portefeuille. Eh bien, Jésus fait partie des petites gens. Dès sa naissance, dans son milieu familial. Et c'est tant mieux. Pourquoi ? Parce que cela souligne la précieuse valeur que Dieu donne à chacun des humbles de la terre. Et donc, c'est pour ça que, lorsqu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, Dieu a pourvu un lieu humble, mais pour souligner des choses, parce qu'il voulait que tous les humbles de la terre puissent saisir la précieuse valeur qu'ils ont en Jésus-Christ. Et Jésus s'est fait semblable aux plus petits. Je disais, ce n'était pas un parcours de santé. L'épisode dont nous avons parlé tout à l'heure de la fureur du roi Hérode. Voilà encore qui fait partie de l'histoire de Noël, cette naissance. Le roi Hérode qui avait une jalousie maladive pour conserver le trône et qui dans l'histoire, hein, on sait dans l'histoire que Hérode fera assassiner sa propre femme, Marianne, et trois de ses propres fils parce qu'il est suspecté de comploter contre lui. Donc vous voyez, Hérode, il n'hésite pas à faire assassiner ses propres enfants. Alors quand il voit des mages arriver d'Orient en disant « Oh là, ils ont vu dans l'horoscope qu'il y avait le roi des Juifs là !» Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Eh bien, il s'enquiert du village, hein, c'est Bethléem. Et il ordonne l'exécution des nouveau-nés. Alors vous voyez Joseph qui est averti par l'ange et qui doit plier bagage dans la nuit. Il part de nuit. Hein? Le texte nous dit qu'il part de nuit. Et dans la nuit, il part sans perdre de temps. Il emmène
son épouse, il emmène l'enfant et ils partent en Égypte dans l'urgence. Voyez l'angoisse qu'il y a autour de Noël, c'est pas qu'un temps paisible. Mais nous voyons que là encore, Dieu pourvoit. Il pourvoit en avertissant, mais il pourvoit aussi financièrement. Comment financer un tel voyage et comment vivre en Égypte le temps qu'il faut? Par quels moyens? Oh ben Dieu avait prévu les ressources financières. Il les avait fait venir de loin et de manière inattendue. C'est l'or, l'encens et la myrrhe que les mages venaient juste d'offrir à Jésus. Et nul doute que Joseph, bien sûr, les mages partent, et il est averti aussitôt qu'Hérode va venir, il plie bagage et il part pour l'Égypte. Et je suppose qu'il n'a pas oublié ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe. Hein, et qu'il va les utiliser de façon opportune pour pouvoir faire subsister sa famille dans ce voyage et dans les 2 ans qu'ils ont passé, je crois, en Égypte. Dieu prépare les moyens de traverser l'épreuve. Ça, c'est important. Dieu a un plan. Son plan passe aussi pour des raisons qui appartiennent à Dieu, mais qui ont toujours du sens et de la valeur. Son plan passe aussi par des épreuves et par des larmes. Et 1 Corinthiens 10, verset 13, nous dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu est fidèle. Amen. Et nous terminons. Et ça, c'est le plus important, c'est la fin. Dieu a un plan pour nous. Il avait un plan pour nous au travers de Noël et il nous invite à rentrer dans son plan. La dernière chose que nous voyons dans Noël, c'est que Dieu appelle des hommes et des femmes à entrer dans son plan. D'abord, il va voir Marie et lui annonce, c'est l'annonciation. Marie est invitée à entrer dans le plan de Dieu de devenir la mère du Messie. Et que répond-elle? Qu'il en soit fait selon ta parole. Elle dit oui. Malgré les craintes, elle dit, mais et mon fiancé, alors oui, mais malgré les craintes et les difficultés qui sont en perspective, Dieu l'invite à rentrer dans son plan et elle le fait avec confiance, elle dit oui. Joseph également rentre dans le plan de Dieu de prendre soin d'être ce père adoptif, protecteur qui va éduquer, qui va élever cet enfant. Les mages et les bergers sont invités aussi à rentrer dans le plan de Dieu. Eh bien, ils se sont mis en route. Hein. Les mages se sont mis en route. Les bergers se sont mis en route à l'invitation des anges. Dieu appelle des hommes et des femmes à entrer dans son plan. Est-ce que nous sommes prêts à répondre oui à l'appel que Dieu nous adresse d'entrer dans son plan? La finalité du plan de Dieu pour Noël, c'est de nous donner à vous, à moi, un sauveur. On est d'accord sur ça? Noël, la naissance du Messie, l'objectif, c'est que le Sauveur, Dieu fait homme, l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui naît, qui grandit, qui se développe, qui devient un homme et qui donnera sa vie pour vous, pour moi, pour que nous puissions naître de nouveau. Hein? Quelle belle image, un nouveau-né qui grandira pour que nous puissions naître de nouveau. Par la repentance et la foi dans cet Emmanuel Sauveur. C'est Jésus qui a fait l'œuvre de notre salut. Et alors nous maintenant,
Est-ce que nous allons rester les bras croisés ou bien est-ce que nous allons répondre oui à l'appel que Dieu nous adresse d'entrer dans son plan, dans le plan qu'il a pour notre vie? Il a invité Marie, il a invité Joseph, les mages, les bergers. Venez, rentrez dans mon plan. Et nous? Nous terminons par un verset, Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez le plan de Dieu pour notre vie? Il dit, on ne reste pas les bras croisés. Quand on vient à Jésus pour le suivre, oui, Dieu, par Noël, avait un plan pour nous, c'était de nous sauver, de pardonner nos péchés, de nous réconcilier avec Dieu. Et lorsque ces choses faites, lorsqu'on vient à Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Le texte nous dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Dieu a un plan pour notre vie, des œuvres, des actions, des projets, un ministère, une vie à vivre pour lui, où nous allons nous mettre à son service, utile pour Dieu. Il a des rendez-vous qu'il a prévus pour nous. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous voyez le plan que Dieu a pour notre vie. Il sait l'avant, il sait l'après, il prépare. Afin que nous les pratiquions. Il nous invite à rentrer dans son plan. Alors, Jean-Denis a souvent dit que Noël c'est un rappel. Alors que Noël soit donc un rappel, non seulement du plan de Dieu pour nous, il est venu Emmanuel Sauveur pour me sauver, mais aussi un rappel de nous dans le plan de Dieu, que nous puissions rentrer dans le plan de Dieu. Prions. Nous voulons te remercier Seigneur parce que Noël n'est pas arrivé par hasard comme un cheveu sur la soupe. Tu l'avais prévu bien longtemps à l'avance, tu l'avais annoncé. Tu es un Dieu qui communique, qui ne reste pas silencieux. Tu es un Dieu qui a un temps pour notre vie. Tu es un Dieu qui prépare des rencontres. Tu es un Dieu qui permet aussi l'épreuve et les larmes, mais qui prépare toujours le moyen de traverser avec du sens et de la valeur. Tu es un Dieu qui envoie des anges en secret pour travailler en faveur de notre vie. Et c'est vrai que toutes ces choses, nous ne les savons pas, nous ne les voyons pas, nous ne les visualisons pas, elles nous échappent, mais tu tenais à nous dire qu'elles existent et qu'elles sont. Merci pour cela. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes qui comprennent Noël, qui comprennent que tu n'agis pas sans plan, sans dessein, mais que Noël, c'était ton plan pour nous sauver, pour nous réconcilier avec toi. Mais nous voulons être des hommes et des femmes qui comprennent que Noël demande une réponse. Parce que si tu as eu un plan pour nous, alors la suite c'est que il y a nous dans ton plan. Que nous puissions, Seigneur, répondre comme Marie en disant oui. Je veux rentrer dans le plan que tu as pour ma vie. Je veux marcher avec toi. Merci parce que, alors que je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient. Et tous mes jours étaient écrits dans ton livre. Oui, Seigneur, tu nous connais par notre nom, tu connais notre passé, tu connais notre histoire.
jusqu'à ce qu'on puisse te rencontrer et marcher dans une vie qui est remplie de la joie de vivre avec tes plans et non pas à l'aveuglette et au hasard dans notre vie. Oui Seigneur, merci parce que avec les plans que tu as pour notre vie a un sens, notre existence n'est pas un labyrinthe ou n'est pas quelque chose qui tourne en rond sur soi-même, mais prend un sens jusque dans l'éternité. Que nous puissions te suivre, t'accueillir dans nos vies, dans nos cœurs, et chaque jour te dire: Seigneur, je veux marcher dans le plan que tu as pour moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.